Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Aujourd'hui, cet entretien hebdomadaire va être un petit peu particulier, sous un format plus long, en raison de l'actualité tumultueuse et douloureuse que nous connaissons. La semaine dernière, jeudi 20 février, vous avez adressé aux catholiques du diocèse de Tarbes-et-Lourdes un communiqué dans lequel vous redites d'abord votre grande tristesse et votre compassion à l'égard des victimes de violence, et vous expliquez dans ce communiqué que depuis quelques jours, Ange Mur, qui est diacre de notre diocèse depuis 1992, est impliqué dans le dossier de l'institution Notre-Dame de Bétharram pour des faits de violence sur des élèves alors qu'il était surveillant de 1979 à 1981. Et puis vous informez les catholiques du diocèse que vous retirez à Ange Mur tout ministère diaconal de manière conservatoire. On va revenir sur ce communiqué pour que vous nous en expliquiez d'abord les raisons, le sens et puis les conséquences. Et ma toute première question, Monseigneur Mika, elle va dans ce sens. Pourquoi avez-vous retiré aussitôt à Ange Mur ces engagements, ces ministères de diacre? Qu'est-ce qui a enclenché cette prise de décision?
Eh bien, c'est une décision évidemment d'une certaine gravité ou d'une grande gravité que j'ai prise après avoir consulté mes très proches collaborateurs après la diffusion sur l'émission quotidienne de Yann Barthès et puis reprise par TF1 et puis par un certain nombre de médias d'une interview, de morceaux d'une interview plus exactement que notre ami Ange Mur a accordé à des journalistes et qu'il interrogeait sur la démarche faite par d'anciens élèves de Bétharram de se plaindre de son attitude à lui lorsqu'il y était surveillant. Et donc son attitude qui, très précisément, porte sur des faits de violence, de gifles, de violence vraiment faites sur les élèves, dans la manière de faire sans doute d'une époque et dans ce type d'établissement qui était réputé pour cela. Donc Ange a tout à fait assumé ses gestes, puis il a eu d'autres propos à propos justement de l'ancien directeur, quand il était là, le père Caricard, qui lui a été impliqué dans des accusations d'agression sexuelle et qui a mis fin à ses jours lorsqu'il a été impliqué par la justice. Et donc Ange a eu des propos sur les manières de ce prêtre, sa manière d'être avec les enfants, sur les enfants eux-mêmes. Bon, donc évidemment ça a été extrêmement choquant de parler du père Caricard comme il l'a fait, de parler des enfants victimes comme il l'a fait. Et je ne pouvais pas ne pas, dans un premier temps et immédiatement, souligner qu'il y a incompatibilité immédiate, en tout cas, entre le fait de tenir de tels propos qui choquent profondément et à juste titre tout le monde, et le fait d'avoir à commenter l'évangile à la messe le dimanche suivant.
Dans ce dossier donc de Bétharram, il est question de violence, mais aussi d'abus sexuels. S'agissant d'Ange Mur, il est question d'abus d'autorité, de faits de violence, de gifles, comme vous venez de l'expliquer. Est-ce que vous considérez que ces deux formes d'abus, en fait, elles méritent d'être jugées et punies à la même échelle, au même degré de sévérité?
Mon propos n'est pas, enfin, c'est pas de trouver la punition adaptée. Le législateur le fait et distingue les choses. Mais de considérer que, de toute façon, il y a pour nous une infidélité à l'Évangile qui peut avoir des degrés de gravité diverses, mais qui sont toutes incompatibles avec le projet d'un chrétien et encore plus d'un ministre de l'Église, quoi. Tout est grave. Tout est une atteinte et a des conséquences sur les enfants qui ont été victimes de ces attitudes que l'on ne mesure pas. Et précisément, les commissions mises en place par la conférence des évêques, la commission mise en place après le rapport de la SIAZ, de reconnaissance et de réparation, pour aborder la question de la réparation, ne part pas de la gravité de l'acte en lui-même, entre guillemets, tarifant l'acte posé, tel acte appellerait tel dédommagement et tel autre acte appellerait tel autre dédommagement, quelles que soient les circonstances, mais par d'abord des victimes et des conséquences que ces actes ont eues sur les victimes. Et pour un même acte posé, deux enfants différents vont avoir une vie et des conséquences dans leur vie totalement différentes. Et c'est à partir de cette considération-là que les choses sont abordées. Le législateur, lui, il juge l'acte posé, point. Nous, c'est les conséquences de l'acte et la personnalité ou les conséquences dans la vie de la personne victime qui sont prises en considération, les deux étant de toute façon extrêmement graves, bien évidemment.
Et ça, vous êtes impliqué dès lors que des victimes contactent le diocèse, la cellule d'écoute, la déléguée aux protections des mineurs et des personnes vulnérables. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez enclencher un travail avec les victimes qui ont besoin d'être écoutées, accompagnées et crues.
Ben, le rapport de la CIAZ a été un électrochoc pour l'Église de France en 2021. Et depuis lors, beaucoup de chemin a été fait dans la sensibilité à l'égard des personnes victimes d'agressions, alors d'agressions sexuelles, mais plus largement d'agressions de la part de membres de l'Église. Et donc dans cette prise de conscience, des dispositifs ont été mis en place pour que si les personnes le souhaitent, si elles continuent de se tourner vers l'Église pour exprimer ce qu'elles ont vécu et leurs souffrances, eh bien elles puissent trouver des interlocuteurs compétents pour le faire, et à la fois avec leur cœur et à la fois avec des dispositifs d'accompagnement, d'accueil, de reconnaissance, de réparation. Voilà, donc tout ça s'est mis en place, alors à l'échelle de l'Église en France, mais aussi à l'échelle des diocèses et de notre diocèse. Et donc la cellule d'écoute de notre diocèse et les personnes qui sont là, la responsable m'a délégué à la prévention et protection des mineurs et des personnes adultes vulnérables, ont toute ma confiance et toute la compétence requise pour accueillir et écouter les victimes dans leur démarche, et puis ensuite pour me conseiller moi-même sur l'attitude juste à avoir à leur égard, bien évidemment.
Pour bien comprendre ce travail de la cellule d'écoute, quand une victime fait appel à la cellule d'écoute pour enfin libérer la parole, est-ce que c'est le rôle de la cellule d'écoute de faire une démarche auprès de la justice, de signaler auprès de la justice ?
Elle peut le faire, en effet. Et voilà, comme tout citoyen qui est soumis à la loi en France et qui est au courant de faits d'agression qui sont posés, et qui est tenu de les signaler au risque de, je crois que c'est 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement s'il ne le fait pas. Et donc, bien sûr, mais en dialogue avec la personne victime, mais bien évidemment qu'il y a des signalements à faire aussi. Alors la cellule d'écoute, c'est des personnes du diocèse qui sont amenées à accueillir et écouter les personnes victimes. Leur but premier, c'est surtout d'offrir enfin une oreille, un cœur qui accueille, souvent après des décennies de silence, et quelquefois de silence provoqué par une non-écoute première au moment des faits, soit de la part de parents, soit de la part d'éducateurs, bien aujourd'hui on écoute. Voilà. Donc la mission première de la cellule d'écoute, c'est d'écouter, d'accueillir et de dire « on vous croit ». On croit que ce que vous nous racontez, vous l'avez subi, c'est vrai. Et évidemment, on le condamne fermement, c'est inadmissible. Et voilà, et on s'engage à vos côtés. Et donc, il y a un accompagnement qui se met en place pour que la personne elle-même fasse une démarche en justice si elle est nécessaire. Et voilà.
Ça veut dire que si la cellule d'écoute ou vous, Mgr Mika, en tant qu'évêque du diocèse d'Arbey-Lourdes, vous avez des appels de victimes, de personnes qui vous disent « moi, quand j'étais élève dans tel établissement, j'ai été victime de violences et ou d'abus sexuels », vous avez la responsabilité de prévenir le procureur de la République ?
Absolument, c'est mon obligation. Et il y a, dès mon arrivée d'ailleurs, en 2022, j'ai signé un accord avec le procureur de la République, comme tous les diocèses de France progressivement l'ont fait aussi, où on s'engage à faire ce qu'il y a à faire dans ce cas de figure. Et donc, j'ai été amené plusieurs fois à écrire au procureur pour lui signaler des faits qui m'ont été signalés aussi à moi d'abord. Et donc, je les ai signalés au procureur, en même temps que je les ai signalés à la responsable, à ma déléguée pour la prévention, la protection, et à la cellule d'écoute, et engager la personne elle-même à agir en justice, à se signaler auprès de la police ou de la gendarmerie, selon... Bon, voilà. Et à prendre contact avec la cellule d'écoute si elle le souhaitait.
Et si un coupable, dans le cadre de la confession, vous dit bah, « effectivement, moi j'ai commis des actes de violence, là quelle est votre responsabilité, le secret de la confession, quid du secret de la confession dans ces cas-là »
Ben, il est absolu. Ben, le droit en France reconnaît la légitimité de ce secret-là, au même titre que le secret auquel sont tenus les médecins ou les avocats. Bon. Ça, c'est une première chose. Donc, le secret est absolu. Je n'ai absolument pas le droit de déroger à ce secret. C'est tout l'édifice de ce que ce sacrement et l'accompagnement qui se vit dans ce sacrement pourrait être mis en péril s'il y a le moindre doute que ce qui est confié dans ce cadre exclusif à un confesseur eh bien, n'est plus couvert par le secret. À ce moment-là, on ne fait plus confiance et on ne confie plus rien, finalement. Enfin, bon. Donc, ça, c'est absolu. Bon, ça, c'est une chose. Et c'est reconnu par la loi. Mais, par ailleurs, je dois dire au pénitent que lui-même doit aller se dénoncer et qu'il doit le faire. Ce n'est pas négociable. Voilà.
Est-ce que vous avez eu depuis des contacts avec Angemur ? Vous l'avez eu au téléphone, il vous a appelé, vous l'avez appelé
Alors, je lui ai fait plusieurs messages, puis j'ai demandé à mon vicaire général d'aller le rencontrer avec l'official du diocèse, le père Mérillon, donc le père Jamais et le père Mérillon, sont allés le rencontrer chez lui, l'écouter et lui signifier les décisions que je prenais à son encontre, après que je le lui ai indiqué moi-même par téléphone, puis je l'ai eu de nouveau au téléphone et prochainement est prévue une rencontre en effet.
Quelles ont été les réactions des diocésains ? Est-ce que vous avez eu des retours de diocésains qui vous ont dit ce qu'ils pensaient de votre décision ?
Alors pas seulement de diocésains parce que cette affaire a été évidemment très très médiatisée et est très médiatisée dans le contexte du dossier de Bétaram aujourd'hui et bon. Alors, dans le diocèse, les gens qui connaissent Angemur sont tous très très émus de cette situation, à la fois des propos qu'il a tenus et à la fois de ce qui lui arrive, quoi, de la haine dont il est l'objet et qu'il reçoit en direct, par téléphone, par message, par tous les moyens possibles et imaginables. C'est le monde a changé et aujourd'hui, elle s'exprime de cette façon-là. Bon. Donc certains peuvent m'en vouloir d'avoir pris une mesure aussi radicale. Bon, voilà, ils peuvent ne pas comprendre, mais lorsqu'on explique les raisons et le contour, le statut de cette disposition, ben voilà, ils me font globalement confiance quand même. Ensuite, j'ai eu aussi d'autres réactions, ou des réactions qui viennent d'ailleurs, et notamment de personnes victimes ou de gens qui ont été témoins d'abus subis par d'autres et qui savent que ces personnes n'ont jamais pu exprimer ce qu'elles ont subi et qui apprécient que des gestes concrets soient posés et qui manifestent qu'en effet, aujourd'hui, les victimes sont écoutées. Voilà. Alors mon propos à moi, c'est d'être le plus juste possible. Et donc pour ça, il faut du recul, il faut de la sérénité, il faut y voir clair, il faut se donner les moyens de ça. Bien évidemment, c'est un engagement que j'ai pris dans mon cœur en acceptant d'être évêque. C'est de m'inscrire dans la démarche dans laquelle la Conférence des évêques de France a inscrit l'Église de notre pays depuis pas mal d'années maintenant, de coopérer à tout ce qui est fait, mais surtout de manifester compréhension, écoute, compassion réelle, sincère, profonde à l'égard des enfants qui ont subi ce qu'ils n'auraient jamais dû subir dans le cadre d'une institution d'Église. et ailleurs. Mais c'est encore plus choquant et pour moi source de grande honte que ces choses-là aient pu exister et puissent peut-être encore exister.
Pour vous, c'est ça la priorité, qu'on soit capable à la fois d'écouter des victimes d'abus qui ont eu lieu dans le passé et puis de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus.
Oui, et puis d'envoyer le message que l'Église, elle ne couvre pas ce genre de comportement. Il ne faut pas que des personnes qui ont des personnalités problématiques du point de vue de la violence ou de la sexualité, qui se traduisent par des agressions qui sont dénoncées aujourd'hui, pensent qu'elles pourraient trouver refuge dans une institution ecclésiale. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, je veux envoyer aussi ce message-là. C'est fini.
Depuis quelques jours, on voit apparaître sur les réseaux sociaux et puis aussi par voie de presse des groupes d'anciens élèves qui dénoncent des faits de violence qu'ils ont pu subir dans d'autres institutions scolaires, enfin autres que Bétaram. Je pense notamment à l'institution Notre-Dame de Garaison. Parmi ces établissements, certains sont donc sous tutelle congréganiste, c'est le cas de Garaison. Est-ce que cette histoire de cette question de la tutelle, à savoir si une école est sous tutelle de congréganiste ou sous tutelle diocésaine, est-ce que ça change quelque chose pour vous dans la perception que vous avez ou dans votre manière d'appréhender ces faits qui sont dénoncés ?
Alors globalement, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire comme responsable de l'Église, j'ai honte de ce qui peut se passer sous couvert d'institutions, dans une institution de l'Église en général. Après, au plan juridique, il faut être précis, les responsabilités qui sont à établir des uns et des autres ne sont pas les mêmes selon la tutelle de l'établissement. Il y a deux sortes de tutelles pour les établissements catholiques, il y a ce qu'on appelle la tutelle, c'est-à-dire le responsable ultime de l'établissement dans le cadre de l'enseignement catholique, c'est soit le diocèse pour les établissements sous tutelle diocésaine, soit telle ou telle congrégation religieuse dans le cadre d'établissements sous tutelle dite congréganiste. Et à ce moment-là, c'est la tutelle qui est responsable des recrutements de ses chefs d'établissement, de ses enseignants, etc., etc. Et qui donc doit gérer l'établissement dont il a la responsabilité.
Vous redoutez la rentrée scolaire dans les établissements catholiques. Vous pensez que ça va être particulièrement difficile là, dans 3 jours pour les chefs d'établissement ?
De manière habituelle et générale, je redoute l'emballement et toute l'injustice qui peut aller avec. Je veux dire ma confiance dans les responsables des établissements catholiques que je connais, avec qui je travaille régulièrement, des autorités de tutelle. Vraiment, je leur fais confiance pour que, le cas échéant, si des plaintes précises sont posées contre des personnes précises, eh bien, les autorités de tutelle engagées assument leurs responsabilités jusqu'au bout, coopèrent jusqu'au bout, à la fois pour que reconnaissance et justice soient rendues aux personnes victimes, mais aussi à l'établissement qui, dans le diocèse, je trouve, nos établissements catholiques font du bon travail. Bien sûr, ici ou là, il peut y avoir tel éducateur, tel enseignant plus sévère que tel autre, ou des personnalités déviantes qui apparaissent ici ou là. Mais chaque fois que c'est le cas, eh bien, il faut que le cas soit signalé le plus vite possible et que la justice s'engage le plus vite possible pour retirer des personnes qui n'ont pas leur place dans ces institutions, quelles qu'elles soient, et pour que les parents puissent continuer en toute sérénité à nous faire confiance.
En tous les cas, ce qu'on retient donc de cet échange ce matin avec vous, Mgr Mika, c'est l'engagement que vous renouvelez et que vous partagez avec l'enseignement catholique dans notre diocèse et à l'échelle nationale. D'abord, d'être vraiment disponible à l'écoute des personnes victimes. Et ça, c'est quand même, comme vous l'écrivez dans votre communiqué, il faut se réjouir que les victimes puissent aujourd'hui libérer leurs paroles et puissent vraiment cet engagement à coopérer avec la justice si on vous demande d'ouvrir des dossiers.
Absolument. Et puis pour moi, quand je dis le mot justice, il y a la justice des hommes, il y a la justice, il y a les lois, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a la justice de Dieu aussi. Et dans ma conscience, coopérer avec la justice, c'est coopérer à tous ces niveaux-là.
Une toute dernière question, Mgr Mika, sur ce sujet-là. Puisqu'on parle de la justice, c'est la justice qui enquête, c'est la justice avec laquelle vous coopérez. Néanmoins, à côté de la justice, il y a le grand public, il y a les médias. Comment vous positionnez par rapport à ça, cette forme de pression ?
Eh bien, j'essaye d'avoir une attitude juste là aussi. Je crois qu'il faut reconnaître que s'il n'y avait pas les médias et cette capacité qu'ils ont à ne pas enterrer les dossiers, à mener jusqu'au bout une enquête et tout ça, je suis pas sûr que par elle-même la justice la justice officielle, on va dire, et les moyens et la volonté toujours d'aller jusqu'au bout des choses. Donc les médias servent d'aiguillon pour inciter tout le monde à la vertu. Mais par ailleurs, on est dans un état de droit et donc il y a des procédures qui doivent se dérouler dans le respect de la loi. Et voilà, donc je dis pas que tout est bien ou que tout est mal. Grâce à ces médias, je pense qu'aujourd'hui, des choses ont réellement avancé dans la provocation parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour ça. Et en même temps, il faut après, une fois que c'est fait, laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler dans un état de droit. Je tiens aussi à dire que il faut avoir le soin, et c'est ma préoccupation, Ange Mur est un diacre du diocèse, c'est un chrétien du diocèse, c'est un enfant de Dieu, et la vie de tout le monde ou de personne ne se résume à des actes mauvais. L'Église, quand elle accueille le pécheur, elle ne dit pas que son péché est quelque chose de bien, mais elle dit qu'il demeure un enfant bien-aimé de Dieu et que sa vie conserve un avenir de toute façon.
Ça, c'est quand même assez difficile à entendre et à accepter pour les victimes d'abus.
Pas toutes. C'est un sujet dont j'ai parlé avec des victimes qui comprennent ça aussi.
Merci d'avoir répondu à ces questions sur ce sujet-là, Monseigneur Mika. On marque une pause et on se retrouve pour poursuivre cet entretien.
Visage d'Église en Bigorre, l'interview hebdo de Monseigneur Mika.
On poursuit cet entretien hebdomadaire sous un format un petit peu spécial, un petit peu plus long cette semaine avec vous, Monseigneur Mika. On va parler d'un tout autre sujet puisqu'on va parler du denier. Le calendrier fait que le lancement de la campagne annuelle du denier a eu lieu ce jeudi 27 février. Alors quand même, on ne peut pas échapper à cette question, à cette préoccupation, Monseigneur. Comment se fait-il que l'Église... le culot, entre guillemets, de lancer une campagne de denier après tout ce qu'on vient d'évoquer dans la première partie de notre interview, après tout ce contexte d'abus et de méfiance, eh bien l'Église lance quand même son appel aux dons, comme tous les ans. Est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu malheureux ?
Oui, sans doute que la coïncidence dans le calendrier, c'est comme ça. Mais cela dit... qu'il y a du mal dans l'Église, qu'il y a du péché dans l'Église, qu'il y a des défaillances dans l'Église. L'actualité, notre actualité ici, vient l'illustrer, mais ce n'est pas une découverte en soi. L'Église a inscrit dans sa doctrine au moment du Concile Vatican II qu'elle a conscience d'être constituée de membres qui sont eux-mêmes pécheurs, d'être elle-même potentiellement l'Église, le corps lui-même, en besoin ou en chemin de purification perpétuelle. Mais elle porte dans le vase d'argile qu'elle reconnaît être un trésor inestimable qui vaut d'être proposé et offert au monde. Alors ça, c'est comme ça depuis toujours. Et donc, c'est comme ça aujourd'hui aussi. Et il faut prendre de la hauteur et du recul pour assumer que toute cette laideur qui nous est envoyée au visage par l'actualité, elle conforte le fait que nous sommes réellement de vrais vases d'argile et parfois pas très reluisants, mais en même temps que l'on porte un trésor que l'on veut continuer de proposer au monde. Et ce trésor, c'est le Christ, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et rien ne doit nous détourner de cet objectif-là. Et c'est précisément en raison de cet objectif-là, l'annonce de l'Évangile, qu'on consent les efforts à faire pour notre propre conversion. Et donc ce chemin de conversion, comme le chemin de la mission, où la conversion fait partie de la mission elle-même, et doit être soutenu, et l'Église a besoin de moyens pour vivre en France, dans les Hautes-Pyrénées aujourd'hui, et que ses membres soient formés, que l'on puisse organiser toutes les sessions qui sont nécessaires pour sensibiliser à des relations justes avec tout le monde, avec les personnes vulnérables, pour, ben voilà, tout cela demande de l'engagement, demande des moyens, et c'est pourquoi il n'est pas incompatible de reconnaître ce dont on parlait en première partie d'émission, et en même temps de continuer de faire appel à la générosité des fidèles, parce que l'Église ne vit que de ça pour continuer d'assurer sa mission, qui est de proposer le Christ. C'est tout de même ça qui vient nous illuminer le cœur, l'âme et le regard, et nous motiver aussi pour vivre tout ce processus de conversion dans lequel on est engagé depuis toujours.
Alors, pour répondre à la question que peuvent se poser les donateurs, à quoi ça va servir le denier si ça n'est pas à entretenir une institution qui n'a pas su protéger les petits, les faibles, les jeunes, les personnes vulnérables dans le passé? Concrètement, à quoi ça va servir aujourd'hui le denier? Où est-ce qu'il va, ce denier? Dans quelle mission est-il injecté? Pour quel salaire? Quel traitement? Est-ce que pour ça, vous pouvez nous expliquer un petit peu, peut-être un petit peu de pédagogie pour nous dire concrètement où va l'argent?
Eh bien, c'est le denier de l'Église. Autrefois, c'était le denier du culte. Aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, c'est devenu le denier de l'Église. Donc, c'est la contribution des fidèles de l'Église à faire en sorte qu'elle puisse avoir les moyens de sa mission. Et donc, principalement, à assurer la rémunération des acteurs de l'Église, laïcs, ministres ordonnés, qui sont engagés dans le diocèse au service de la mission de l'Église pour l'organisation aussi bien des paroisses, des services, de la structure même du diocèse, qui est vraiment minimale, mais qui est nécessaire. Et donc le denier vient principalement, est une des 5 grandes ressources de l'Église, et elle est affectée à ce soutien-là.
Donc sans denier, pas de service administratif, pas de service pastoraux, pas de mission donc sans denier?
À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus les moyens de rémunérer les prêtres, de rémunérer les laïcs qui sont en mission et de rémunérer les salariés de la curie qui sont au service du diocèse et des paroisses.
En 2024, entre 2023 et 2024, nous avons perdu plus de 500 donateurs. Comment vous expliquez ça? Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer que des donateurs cessent de donner?
Alors, il y en a plusieurs. Hein. Un facteur qui est général, analysé, identifié, c'est que le denier est inscrit dans la pratique d'une certaine génération de fidèles qui vieillissent, qui disparaissent et qui ne sont pas remplacés par leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc il y a une baisse qui est liée simplement à la démographie des catholiques dans le paysage, quoi. Bon, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est aussi une perte de confiance dans l'Église qui s'est accentuée avec les affaires. Et je pense que en 2024, les révélations autour de l'abbé Pierre sont un coup de grâce dont on a beaucoup de mal à se remettre, parce que une figure telle que celle-là, qui est convaincue elle aussi d'être une personnalité complexe et qui a posé des actes d'abus, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et je pense que dans l'esprit de certains, trop c'est trop, quoi. Voilà.
Vous voulez dire qu'il y a une confiance qui est rompue, donc on arrête de donner?
En tout cas, qui est très très abîmé, qui est rompu sans doute chez certains, qui peuvent me l'écrire. Hein. Et voilà, certains peuvent être mécontents aussi de leur prêtre, de leur curé, ou de telle ou telle orientation qui est prise, etc. etc. Et donc, d'un coup de colère manifeste comme ça, leur désapprobation. Bon, mais je pense que l'explication première, qui concerne le plus grand nombre de la baisse, là, c'est d'abord la démographie et ensuite la perte de confiance abîmée, la confiance abîmée en l'Église.
Alors il y a aussi, alors je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il y a aussi une étude qui est sortie qui explique parmi les catholiques pratiquants, certains ne donnent pas au denier parce qu'ils donnent à la quête le dimanche, et donc ils se disent la quête compense ce que je donne pas au denier, et qui ils ont bien l'impression, le sentiment de faire le job.
Oui, mais c'est pas suffisant, tout simplement. Les gens qui sont responsables, réalistes, savent le coût de chaque chose. Autrefois, pour assurer des services au niveau des aumôneries, au niveau du diocèse, au niveau des paroisses, bien, il y avait des prêtres et des religieuses qui ne coûtaient pratiquement pas grand-chose, quoi, bon, qui vivent simplement. Aujourd'hui, on a besoin de gens compétents pour les services de l'économat, pour des services de secrétariat, pour des services de communication, pour, etc. Ben, tout cela coûte infiniment plus. Les règles, les exigences des lois imposent aussi beaucoup de choses. L'entretien d'un certain nombre de bâtiments dont on a besoin, avec des normes toujours plus exigeantes, coûte extrêmement cher. Et donc, le budget global du diocèse est chroniquement déficitaire. Alors on essaye de faire en sorte qu'il le soit de moins en moins en faisant des coupes, mais il faut avoir conscience que, une fois j'ai entendu l'expression, il faut dégraisser le mammouth. Ben, il y a belle lurette que le mammouth a été dégraissé, et la moindre coupe aujourd'hui, c'est un service que l'Église rend, auquel on renonce. C'est une mission à laquelle on renonce, etc. etc.
Mais ça veut dire dans ce cas-là que à cause de limites financières, il faut renoncer à un certain zèle pastoral qui fait vivre l'Église. C'est le cœur battant de l'Église, ce zèle pastoral, cette envie d'annoncer le Christ.
Ben oui, mais oui, tout à fait d'accord. Hein. Mais voilà, les factures arrivent tous les mois quand même.
Hein. Alors comment justement, est-ce que d'abord c'est votre rôle à vous, évêque d'un diocèse, avec vos équipes sûrement le rôle de l'économe, mais comment vous travaillez cet équilibre entre ce zèle pastoral, une espèce de confiance spirituelle, et puis en même temps la lucidité qui est bien nécessaire quand les factures arrivent sur l'état des comptes? Comment on arrive à trouver un équilibre?
Eh bien, il y a une instance dans l'Église qui s'appelle le Conseil diocésain des affaires économiques, et dont c'est la mission d'être à la fois sensible à l'objet de l'Église qui est d'être missionnaire, et donc d'engager des moyens au service de la mission, et puis de veiller à la bonne gestion de l'argent qui nous est confié. Tout l'argent dont nous disposons provient de dons sous diverses formes des fidèles de l'Église, et on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment avec, y compris dans la manière de le placer, de le confier à des établissements qui essayent de dégager quelques intérêts. Ben, il faut être vigilant à la nature de ces placements, etc., etc. Donc ce conseil veille à tout cela, à la fois la gestion, à la fois le bon usage des biens et le bon équilibre de ce qu'il est légitime de consacrer à la structure de l'Église, puisque toute institution a besoin de cette structure, et en même temps de ce qui est premier, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile et les moyens qu'il faut concentrer sur la mission.
Un jour, vous aviez dit lors d'une interview hebdomadaire que notre pauvreté, la pauvreté de notre Église, est aussi une chance, et qu'il ne faut pas qu'elle nous affole, qu'il faut plutôt la voir comme une opportunité de peut-être de faire mieux ou de faire bien. Alors vous ne l'aviez pas dit avec ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
De faire mieux, sans doute, on l'espère, mais en tout cas de faire autrement. Il est clair qu'on ne peut pas continuer d'entretenir tout un patrimoine de bâtiments qui était nécessaire, qui est là aujourd'hui. Et il faut sans cesse se poser la question, est-ce que tout est nécessaire? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on ne peut pas? Et donc consentir à reconnaître que tout n'est peut-être pas complètement nécessaire, et par contre que ça coûte, et que ce n'est pas juste que des moyens soient mis là plutôt que d'être mis à la mission elle-même. Et donc aussi bien le Conseil épiscopal que le Conseil des affaires économiques, mais les autres instances du diocèse qui réfléchissent, identifient les choses, font des recommandations de décision, et après il faut faire de la pédagogie, convaincre les gens localement que les choses changent, qu'on n'a plus les moyens de faire ceci ou de faire cela, ou au contraire qu'il faut dégager des moyens pour faire autre chose et le faire autrement. Et donc cette pauvreté empêche l'insouciance, où si on avait de l'argent, on continue de faire comme toujours, mais sans doute que ce ne serait pas complètement juste non plus de faire comme ça, parce que sous prétexte qu'on en aurait les moyens. Mais le fait de ne pas les avoir, de toute façon, nous oblige à être plus vertueux, et c'est tant mieux.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Mgr Mika. Et donc, la campagne du denier pour l'année 2025 vient d'être lancée. Et les auditeurs peuvent faire aussi un don en ligne en allant sur le site catholique65.fr/donons. Merci, Mgr. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Anne-Rose.